Alors, il dicte l'agenda des thèmes. Hier, il était sur ce plateau. Il a évoqué la question des enfants transgenres parce qu'il y a une circulaire qui a été émise par l'Éducation nationale pour mieux prendre en compte ces élèves dans le cadre du personnel administratif. Qu'il y a un cadre, au fond, pour les profs, parce que c'est très compliqué pour des professeurs d'appréhender des enfants qui sont entre deux identités, deux genres. Ça existe, c'est une réalité dans notre pays, je vois déjà réagir Alexandre Devecchio, voilà. Et en fait, il a dynamité le thème hier en l'évoquant et en comparant Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele. Louis de Ragnel, est-ce que c'est exprès, c'est une stratégie de prendre des vrais thèmes qui intéressent les Français et puis de les doubler d'une espèce de dynamitage complet.
Je ne sais pas très bien, j'ai l'impression, puisque je regardais quand vous l'avez interviewé, d'ailleurs vous l'avez posé les bonnes questions, on avait l'impression qu'il était très libre, totalement désinhibé, et donc lui en plus il est souvent dans une approche assez conceptuelle, donc il dit ça un peu comme il pourrait vous raconter ça dans un salon, avec des rebondissements, des gens qui disent mais c'est choquant et tout ça, donc je pense qu'il n'a même pas fait attention à ça. Ensuite évidemment la comparaison avec le docteur Mengele est ultra choquante, ce que je trouve un peu dommage sur cette séquence, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est réellement, je pense, la pression des associations LGBT à l'éducation nationale. Et il y a un sujet dont il faut parler, et on en a parlé d'ailleurs avec Alexandre Devecchio hier. Et de l'autre côté, le problème, c'est que si, avec ces phrases-là, en fait, ça tue complètement l'intérêt pour le débat. Pour le débat. Donc voilà, je pense qu'honnêtement... Je vois pas quel est l'intérêt à utiliser régulièrement le champ lexical du nazisme. En plus, lui est juif, d'origine juive, enfin tout le monde le sait. Je sais qu'il le fait aussi, je pense, parce qu'il sait qu'il est moins attaquable que si c'était Alexandre Devecchio, Louis Osalter ou Marine Le Pen qui utilisait ces mots-là. Donc moi je me pose réellement la question.
Alexandre Devecchio,
il prend des codes où ça choque parce que c'est Éric Zemmour, mais on a entendu tout le week-end la majorité En Marche, le traité de virus, nous parler de lèpre populiste. Ça fait des années qu'on traite de fasciste. Pas la peine de faire comme si on était choqué, puisque ça fait 30 ans que des gens évoquent le fascisme à tort et à travers. Donc sur ce, Éric Zemmour ne fait que reprendre les codes de l'adversaire. Ensuite, moi je pense qu'effectivement, d'un côté il caricature le débat, mais de l'autre côté on n'aurait jamais parlé de cette circulaire qui est quand même assez grave. Qui explique, pour parler très clairement, que si vous appelez votre fils Alexandre, mais s'il a décidé de s'appeler Alexandra, le maître d'école devra l'appeler Alexandra. Donc on est dans une circulaire de dingo. Et la circulaire en elle-même me choque beaucoup plus que la comparaison outrancière d'Éric Zemmour, qui a du reste permis qu'on parle de la circulaire. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, parce qu'effectivement il est désinhibé, mais en tout cas c'est efficace.
Isabelle Saporta.
Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est efficace de comparer à Mengele, qui était donc, on va le rappeler quand même, le médecin d'Auschwitz, celui qui a finalement pensé toutes les expérimentations sur les Juifs dans les camps d'extermination.
Et les enfants.
On est quand même là dans un truc... Pardonnez-moi.
Il parle pas de Blanquer, il parle des cliniques américaines. Et si on connaît très bien la théorie du genre, il y a eu des expériences au départ qui ont causé des morts sur des jumeaux. Je pense donc qu'en fait, il pense à ça...
Alexandre, pardonnez-moi. Alexandre, de fait, vous savez bien que cette comparaison, elle est juste inacceptable et qu'il le fait exprès. C'est ça qui me... Bien sûr que si, il le fait exprès. Pardonnez-moi, c'est Donald Trump, Éric Zemmour. Il fait à chaque fois, il passe la ligne. Parce qu'à chaque fois, il veut que ça crée, que ça suscite le buzz. Donc voilà, mais là, on n'est pas obligé à chaque fois de violenter la société comme il le fait. Et par ailleurs, pardonnez-moi, mais enfin, je ne pensais jamais de ma vie donner raison à Jean-Marie Le Pen. Oui, il se permet des choses parce qu'il est juif. Et je vous le dis d'autant plus simplement que je m'appelle Saporta. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un patronyme juif. Je ne supporte pas, en fait, qu'en tant que juif, ils se permettent finalement des choses que plus personne ne se permettrait de faire aujourd'hui, parce que c'est vraiment, c'est, ça a des relents antisémites. Donc c'est pas possible, ça, ça c'est
vois,
pas possible.
Je vois pas en maintenant, quoi, maintenant, je trouve la comparaison outrancière, je l'ai dit, mais je vois pas en quoi.
Mais parce que vous
comparer
voyez
les cliniques américaines à Mengele, c'est antisémite.
Dénoncer
les nazis, voir des nazis partout. Encore une fois, ça a été l'apanage de la gauche pendant 40 ans.
Ils avaient le droit de le savoir
très bien.
Mais vous trouvez que c'est bien?
J'ai pas dit que c'était bien, mais je vois pas en quoi c'est antisémite.
Je veux dire, on est dans autre chose. Pardonnez-moi, mais le révisionnisme. Normalement, c'est l'apanage des antisémites. Et ça, c'est du révisionnisme. Voilà, c'est tout. Donc, on peut le voir ça, comme on veut. Pardonnez-moi, mais sur Mengele,
il relit pas l'histoire, là. Enfin,
non,
parce
quoi,
que Mengele.
Non,
moi, je pense qu'il fait une comparaison qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Parce que dans un cas, c'était dans des camps de concentration, dans des circonstances épouvantables. Et dans un autre cas.
C'est quoi, alors?
Non, mais après, il faudrait l'interroger. Mais c'est une émission d'histoire. Et il nous raconte sa vision de Mengele.
La comparaison avec Trump est intéressante parce que Trump vient après. La post-vérité de Donald Trump, mais la post-vérité, c'est ceux qui ont déconstruit la société pendant des années. Il ne faut pas oublier que ce type de candidat populiste arrive après un passif. Et encore une fois, l'antifascisme, on en a soupé à tort et à travers. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait faire les mêmes choses. Je dis simplement que Éric Zemmour n'est peut-être pas plus révisionniste quand on. Il ne l'est pas, d'abord. Pas plus outrancier que ceux qui voient des fascistes partout depuis 40 ans, alors qu'effectivement, le fascisme est.
Alexandre, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on poursuit ce débat sur les dérapages d'Éric Zemmour. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Alexandre Devecchio, Louis de Ragnel, Isabelle Saporta, Louis Haussalter. On ne vous a pas entendu, Louis Haussalter, à propos de ces deux visions de la société, au fond, qui s'opposent, celle d'Emmanuel Macron, celle d'Éric Zemmour. On parlait des enfants transgenres, de cette circulaire de l'éducation nationale. Ces deux visions de la société, au fond, qui s'opposent.
Mais en fait, ça, j'en suis même pas sûr. Vu les mouvements permanents d'Emmanuel Macron, moi, je retrace je pars de la campagne de Macron en 2016-2017. J'arrive à l'automne 2021 maintenant. Je ne sais pas exactement quelle est la vision de la société d'Emmanuel Macron, en fait. Je ne peux pas vous le dire. Je vois à peu près celle de Zemmour. Ça, il nous l'explique depuis assez longtemps. Et puis, il l'explique de plus en plus fort. Donc, on voit. Mais Emmanuel Macron, entre celui qui disait en Algérie,
Nation,
en 2016, que la colonisation était un crime contre l'humanité, et qui maintenant explique qu'il y a une rente mémorielle du régime algérien, qu'il n'y a jamais eu une nation algérienne avant la colonisation française, et que d'ailleurs, il y aura moins de visas pour les Algériens. Vous voyez, j'ai du mal à saisir la cohérence, le parcours à tisser des fils dans ce parcours-là. Il mène une guerre de mouvements, c'est-à-dire que Macron, c'est un bon tacticien, je ne sais pas si c'est un bon stratège, c'est un bon tacticien. Il voit d'où viennent les coups et il répond par des actes, typiquement l'affaire des visas algériens et marocains. Quand il répond, pendant que Zemmour parle de ces sujets-là, lui, il dit, regardez, j'ai pris telle décision, j'ai pris tel décret, j'ai pris telle mesure. Donc, je ne sais pas si c'est un choc de vision du monde, je pense qu'on le saura si jamais il y a un débat de second tour Macron-Zemmour, ce dont je ne suis pas persuadé à l'heure actuelle, mais
mais vous pensez pas que les sondages d'aujourd'hui
la campagne sera ça pas du tout. Et le champion d'automne n'est jamais le champion du printemps. C'est très rare.
Macron ne sera pas au second tour, ce n'est peut-être que ce que personne ne voit. Mais je pense qu'il rebat tellement les cartes dans cette élection que Macron et Le Pen faisaient système d'une certaine manière. Pour le coup, prétendaient avoir deux visions opposées. Peut-être que ça va bouleverser totalement l'échiquier politique.
Isabelle Saporta. Moi, contrairement à vous, je trouve que Zemmour, c'est effectivement. Vis-à-vis des partis politiques, c'est l'anti-Macron. C'est-à-dire Macron pulvérise les partis et est un peu nulle part. En fait, Zemmour est en train de faire ce dont rêve la droite depuis toujours, c'est-à-dire une union des droites. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas, effectivement, s'il devient le champion de la droite et s'il est fort comme il est fort, comment ils vont pouvoir continuer à décider, à faire, sans lui, en fait. Ils vont être quasiment...
Et le RN, attendez le 4 décembre, le lendemain du congrès.
Mais ça va être compliqué. Mais en vrai, ça va être très compliqué.
Vous allez voir 4 décembre.
Qu'est-ce qui peut se passer
Mais 4 décembre, le lendemain du congrès, on voit bien, il y a deux lignes irréconciliables au sein des. En fait, il y en a trois. Il y a les technos qui ne pensent pas grand-chose. Il y a ceux qui sont compatibles avec Emmanuel Macron, centre-droit et libéraux. Et il y a les conservateurs. Et clairement. Si c'est quelqu'un du centre-droit ou libéral, dont on sait en plus qu'il a essayé de rentrer au gouvernement par le passé d'Emmanuel Macron, qu'il a fait des offres de service pour être Premier ministre, par exemple, eh bien, pour l'électorat conservateur de droite, c'est impossible. Ils ne pourront pas voter pour lui. Et donc, mécaniquement, si vous voulez, c'est des gens qui se retrouvent parfaitement dans la vision d'Éric Zemmour sur la droite du RPR. Mécaniquement, ils rejoindront Éric Zemmour. Je pense que Éric Zemmour a bien ça en tête et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'il déclare sa candidature avant le 4 décembre parce que
au lendemain carrément jusqu'au 4 décembre.
Ah mais Pour l'instant, qu'est-ce qui presse, chère Laurence? Ouais, et en plus, au lendemain du 4 décembre, du coup, il pourrait éventuellement avoir des ralliements. Parce que ce dont il manque quand même aujourd'hui, il y a une petite différence quand même entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Macron avait quand même quelques politiques autour de lui. Il y avait Gérard Collomb, le maire de Lyon. Il y avait, alors, ce n'était pas forcément Richard les meilleurs, Ferrand, mais c'était, il y avait Christophe Castaner qui était député des Alpes-Maritimes.
À part Collomb, il n'y avait pas des gros.
Voilà, et du coup, Éric Zemmour, en fait, il faut qu'il attende cette échéance. C'est la première étape éventuelle, parce qu'on verra ce que ça donnera. Mais la possibilité de désintégration de la droite peut intervenir, en tout cas, au lendemain du 4 décembre.
Alexandre Delecchio.
Moi, je pense que ça fait des années qu'on est dans un processus de décomposition et de recomposition. Lors de la dernière élection, en fait, la décomposition de la gauche a été jusqu'au bout, avec une reconstitution, finalement, d'un centre... Macron a réuni les centristes de gauche et de droite, les libéraux, les européistes, et en face, il y a quand même les adversaires, en réalité, de la mondialisation, parce que le clivage, il est là-dessus. La mondialisation est un phénomène total, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel. Marine Le Pen ne pouvait pas l'incarner parce qu'elle venait malgré tout de l'extrême droite. Moi, je pense qu'elle était plus d'extrême droite, mais son parti avait cette généalogie-là. Elle était la fille de Jean-Marie Le Pen et il fallait un leader populiste de droite. Et en fait, Éric Zemmour est en train de réussir ce qu'a réussi Donald Trump, de ce qu'a réussi Boris Johnson. Et en fait, on va avoir deux populistes d'une certaine manière. Si on considère que le populiste est un style, c'est-à-dire un homme face au peuple, sans apparence, pareil, sans corps intermédiaire, un populiste du centre qui est Emmanuel Macron et un populiste de droite qui est Zemmour.
De Gaulle, l'esprit de la Ve République. En
fait. Oui, tout à fait, parce que De Gaulle était aussi un bonapartiste, un populiste.
Il y a un autre sujet qui s'est imposé dans l'actualité et qui a trait à la religion, à la faveur du rapport Sauvé, la commission évidemment qui a révélé l'ampleur du scandale de la pédocriminalité en France, 300 000 victimes à peu près sur plus de 70 ans. Et à la faveur de ce rapport, le président de la Conférence des évêques, Monseigneur Moulin
Beaufort,
a exprimé une vision de la confession qui est assez, on va dire, qui heurte les valeurs républicaines, puisqu'il dit que le secret de la confession est supérieur à la loi de la République. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui reçoit un criminel en confession ne peut pas saisir le procureur pour les crimes en cours. Louis de Raguenel, Gérald Darmanin s'est expliqué cet après-midi, il va non pas convoquer, mais inviter le président de la Conférence des évêques à venir au ministère la semaine prochaine. Il y a un bras de fer, il y a une tension réelle entre le clergé et le gouvernement français.
Initialement, le gouvernement ne voulait absolument pas tendre ce match, créer ce match, mais effectivement, les propos de Monseigneur de Moulin-Beaufort ont fait le buzz, la polémique sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ils n'ont pas été compris. Parce que, après,
il dit les lois de l'Église sont supérieures aux lois de la République.
Ensuite, il ne dit pas les lois de l'Église, il dit l'inviolabilité du secret de la confession ne peut pas se soumettre en gros à la loi. Sauf qu'en fait, ce qu'il aurait dû...
Il ne dit pas ça. Les lois de l'Église sont
supérieures. Non, il ne dit pas les lois.
Je crois
qu'il parle vraiment précisément du secret de la confession. Et en fait, non, mais ce qui est compliqué, c'est que cette séquence intervient à un moment, effectivement, vous venez de parler, où l'Église fait l'opération entre guillemets main propre, et donc il y a cette charge émotionnelle hyper forte, ce séisme. Et de l'autre côté, en fait, le secret de la confession répond effectivement au droit canon, parce que tout ce qui régit l'organisation de la vie de l'Église catholique, c'est le droit canon, et ça dépend de Rome. Et donc, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort ne pourrait jamais de lui-même expliquer que le secret de la confession devient violable, ou qu'on peut le lever, dans la mesure où c'est même pas... Lui, tout seul, ne peut pas décider ça, c'est au pape de décider ça. Et du coup, en fait, le problème dans cette histoire, c'est qu'il aurait dû expliquer ce qui se passe réellement et concrètement dans l'Église catholique aujourd'hui en France. C'est que le secret de la confession, heureusement qu'il y a le secret, parce que d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi à des victimes de venir se confier, parce qu'ils savent que quand ils vont s'exprimer sous le secret de la confession à des prêtres, ce ne sera pas répété. Là, ça, c'est le premier élément. Et ensuite, le prêtre est censé, et c'est aujourd'hui ce qui se passe de plus en plus, orienter la personne qui se dit victime d'inceste, de viol ou de je ne sais pas quoi, d'aller vers les bonnes personnes. Et donc, en fait, ce qu'aujourd'hui l'Église catholique met en place, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le secret de la confession est maintenu et le prêtre dit, voilà, en dehors du cadre de la confession, évidemment, si quelqu'un a commis quelque chose déjà, il ne peut pas avoir l'absolution, il ne peut pas être pardonné s'il ne répare pas, et donc s'il ne va pas se rendre, se remettre devant la justice civile, et donc devant les lois de la République, pour répondre à ce que vous disiez. Donc voilà, mais d'accord. C'est un sujet compliqué, parce que oui, ça touche aussi à la transcendance, à l'intimité de la vie. Non mais, si vous voulez, la place de la foi, là où c'est compliqué, c'est que c'est dans l'immatériel, et que les lois de la République, c'est dans le, forcément dans le matériel.
Et donc, et on critique tant les religions, et je pense aussi à une autre religion sur le fait
qu'on
mettrait les principes de la République en dessous des principes.
Mais avec, deux choses différentes. C'est-à-dire que pour l'islam, ce qui posait problème, c'était parce que l'islam souhaitait imposer des choses à la société française, là où la religion catholique, il y a un problème actuel, mais ne cherche pas à imposer un modèle à la société.
Isabelle Saporta, un tout petit mot.
Enfin, dites-moi, juste pour le moins, vous pouvez reconnaître que c'est particulièrement maladroit. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cette grande opération,
parce que c'est un sujet compliqué,
si je puis me permettre, main propre, où on essaye de voir un petit peu quelles ont été les victimes, qu'on essaye enfin de mettre au jour toutes ces victimes, ces souffrances, etc. Où tu as justement dans la hiérarchie ecclésiastique de la religion catholique quelqu'un qui dit non, mais écoutez, on va remettre le couvert là-dessus, on va surtout rien dire et ce sera comme avant. C'est inaudible en fait.
Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas exactement ce qu'il dit.
Oui, ok, on vous a bien entendu. Juste un mot des autres, vous ça me taire.
Quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que en fait, le secret de la confession est prévu par les lois de la République. On ne le sait pas, mais moi, j'ai découvert ça récemment. Dans les relations entre le ministère de l'Intérieur et les cultes, donc l'Église catholique en particulier, le secret de la confession pour un prêtre est l'équivalent du secret professionnel pour n'importe quelle profession qui serait concernée. Ça veut dire qu'un prêtre peut être poursuivi en justice s'il révèle ce qu'on lui a dit en confession. Il y a quand même des exceptions, dont les crimes sexuels sur mineurs de moins de 15 ans, je crois. C'est-à-dire que là, si un prêtre entend vraiment quelque chose d'une gravité de cette ampleur, et on l'a vu en plus avec le rapport de la commission ces derniers jours, là, il y a une exception qui est prévue par la loi. Mais c'est amusant de voir que dans les relations entre l'État et l'Église, la loi prévoit...
C'est là où le secret de la confession, s'oppose pas aux lois de la République, c'est que la circulaire
Molins de 2004... L'erreur est de hiérarchiser les deux.
La circulaire 2004 de François Molins précise justement que le prêtre, comme le médecin, comme ces professions-là, ont la faculté de le lever dans certaines circonstances et donc d'en parler avec la personne qui se confie et ensuite de l'orienter vers les bonnes personnes.
Merci beaucoup, avocat, d'avoir participé à ces débats dans Punchline. Et puis, encore une fois, un hommage à Étienne Maujotte, 80 ans. Il s'est éteint, grand patron de presse, numéro 2 du groupe TF1. Il a fait les grandes heures de TF1 avec Patrick Lelay, Europe 1 aussi. C'était une voix d'Europe 1. Et évidemment, on a une pensée pour ses proches et pour le grand homme de presse qu'il a été. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour Punchline. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.